Le paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut à tous les passionnés de l'asphalte qui sont avec nous, le paddock RMC. C'est votre podcast Formule 1 tous les lundis désormais, parce que oui, désormais, c'est tous les lundis, même les lundis où il n'y a pas de Grand Prix. On sera avec vous, on vous propose des épisodes un petit peu plus magazine, dans l'introspection des écuries. Le paddock RMC, c'est bien sûr sur toutes les plateformes de téléchargement et sur rmcsport.fr. Paddock RMC également, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, hein, sur le compte Twitter RMC Sport, si vous voulez voir le style vestimentaire de notre paddock. On vous partage des petits extraits du podcast en vidéo, c'est très sympa, donc n'hésitez pas à partager et à relayer tout ça. Les ingénieurs du paddock RMC aujourd'hui, Jean-Luc Roy et Paul Lafitte, sont en train d'analyser toutes les datas avant la Chine. Ils sont occupés, mais on a du beau monde sur la murette des stands. Alex Caldi, Romain Leroutier et Louis Gerbier, c'est sa première à Louis. On allait le piquer à une écurie concurrente. Salut les gars.
Salut
Nico.
Louis, t'es ému quand même, un podcast Formule 1, toi le passionné là.
Ah, très très ému, très heureux d'être là, ouais. Ouais. Un peu de stress même, je t'avoue.
On va se régaler. Oh, c'est bon ça quand il y a un peu de stress, c'est toujours très bon. On est entre deux Grands Prix, à une semaine de la cinquième manche de la saison en Chine, et ça nous paraissait important parce qu'on est inquiets, nous, fans de Formule 1 français, d'analyser la situation de notre écurie alpine qui s'affirme comme la dernière force du plateau de 2024. C'est un coup très dur pour Renault, pour les deux pilotes Esteban Ocon et Pierre Gasly. On va analyser cette descente aux enfers. Cette saison peut-elle mettre fin à l'histoire d'Alpine en Formule 1? Il y a déjà quelques rumeurs qui vont dans ce sens. Pourtant, tout avait si bien commencé il y a quelques années.
On a un problème, Houston.
It's not Alpine.
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 Alpine. Alpine.
Esteban Ocon is going to be a Grand Prix winner in Formula 1. Ocon wins the Hungarian Grand Prix. Pierre Gasly wins the Italian Grand Prix. Wonderful.
L'isopaïne transforme-les en
je vais t'arrêter tout de suite, je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux, donc là à tout moment ça part en fait.
Comment expliquer cet effondrement, les gars? Que s'est-il passé depuis le retour de Renault en Formule 1? Et sur ces trois dernières saisons, on avait tellement d'espoir, tellement d'ambition côté Alpine. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ça paraît vraiment improbable de les voir dans cette situation-là. On a voulu faire le point un petit peu chronologiquement de tout ce qui s'est passé avec Romain. Qu'est-ce qu'avait vécu à Alpine ces dernières années?
Alors, Alpine reprend le nom de Renault en 2021 et Cyril Abitbol cède sa place de team principal à Laurent Rossi pour cette nouvelle ère. Et c'est une première saison encourageante avec une victoire d'Esteban Ocon en Hongrie, mais quelques problèmes techniques et hiérarchiques émergent dès 2022. Les départs d'Alain Prost, directeur non exécutif, et de Martin Buskowski, directeur exécutif, tous deux en froid avec Laurent Rossi, marquent le début de ces instabilités internes. S'ensuit alors le départ de ce dernier pour laisser sa place à Philippe Krief. Et Otmar Schaffnauer laisse sa place de directeur de course à Bruno Famin. Mais en 2023, Alpine tente le pari et mise sur du 100% made in France. Gasly arrivé s'intègre rapidement. De son côté, Ocon est contraint d'abandonner 7 fois sur 22 courses. Cette année, Matarman et Dirk De Beer, les constructeurs de la 524, s'en vont et entraînent une nouvelle restructuration interne. La monoplace présentée en février montre des lacunes dès les tests hivernaux, notamment en poids, en équilibre et en puissance moteur. Il faut savoir que l'écurie, d'ailleurs, est divisée entre l'usine de Viry-Châtillon, responsable du moteur, et celle d'Enstone, chargée du châssis et de l'aéro. Et ces deux usines passent leur temps à se renvoyer la responsabilité de tous ces échecs depuis le début de la saison. Au final, après ces 4 premiers Grands Prix, les résultats sont dramatiques. La 13e place est le meilleur résultat en course pour les deux pilotes français. Au classement du championnat constructeur, Alpine est dernière avec 0 points, tout comme Williams et Sauber. C'est donc un bilan négatif pour une écurie constructeur habituée à se battre pour le haut du milieu de la grille.
Ouais, le bilan il est négatif. Ouais, il est même plus que négatif. Il est un peu catastrophique là quand on fait le bilan de tout ce qui s'est passé. On le disait, il y a 3 ans, Alpine était plein d'ambition. Alex, voilà, ça visait même le podium, ça voulait chatouiller Ferrari, et là on en est là. Pff, c'est difficile à expliquer, et en fait on a l'impression que ça ça s'empire en fait. De week-end en week-end, la situation s'aggrave, même s'il y a des restructurations internes, on voit pas d'amélioration. Alors faut peut-être leur laisser du temps, mais on voit pas trop comment ils vont voir le bout du tunnel, les copains de chez Alpine. Là.
Ça va être compliqué de trouver le bout du tunnel, ça c'est sûr et certain, mais il faut avoir du positif. Commençons sur une note positive. Ça ne peut pas être pire.
Ah, enfin, oui,
on peut
oui,
pas tomber plus bas du côté de chez Alpine au vu de la situation.
Ouais, on peut le voir comme ça.
Ouais, y a Romain a dit quelque chose de qui peut être assez anodin, c'est de dire que Alpine est une écurie constructeur en Formule 1. Mais c'est la réalité, et pour moi, il faut aussi prendre corps et sens avec justement ce terme de dire constructeur en Formule 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on représente une marque, on représente tout un univers. Alpine, c'est le groupe Renault. Le groupe Renault en Formule 1, c'est tout de même des multiples titres constructeurs, que ce soit en tant qu'équipe, bien sûr deux avec Fernando Alonso, mais surtout, c'est un multiple champion du monde en tant que motoriste. C'est une histoire, Renault et le groupe Renault en Formule 1, au-delà d'Alpine, même dans le sport automobile. Et en fait, de ce fait-là, Renault, aujourd'hui, par cette situation, et Alpine en particulier, n'a pas le droit d'être dans cette situation. Peu importe tout ce qui s'est passé en interne, tous les changements, les rebondissements, je sais qu'on va y revenir, mais le nombre de changements qu'il y a eu en interne depuis le rebranding de Renault
ça,
en Formule 1.
Ça, c'est totalement zinzin.
Exact.
Ça.
Et depuis 2020-2021, c'est absolument exceptionnel et c'est surtout dramatique. On ne peut pas tomber plus bas. Oui, c'est la note positive, mais il faut comprendre comment on en est arrivé à cette situation. Avoir une écurie constructeur en Formule 1, dont le PDG du groupe Renault, qui est Luca De Meo, qui avait quand même dit « Oui, on veut devenir le Ferrari français ». Ouais, alors c'est peut-être la Scuderia Ferrari des années 2015, 2014, quand il y avait Alonso et que c'était catastrophique. D'accord, parce que là, c'était la Scuderia Femmoire. Mais là, aujourd'hui, clairement, Alpine, dans une situation qui lui est pas normale, on n'aurait jamais dû arriver dans cette situation-là, même s'il y a eu autant de changements drastiques en interne. Et on est encore une fois, on le rappelle, on est en 2024, mais on est encore sur le début d'une nouvelle ère qui va arriver potentiellement sur encore une nouvelle ère avec Bruno Famin, bien sûr.
Ouais, mais tu peux pas, en fait, Louis, à chaque fois, à reconstruire. Tu peux pas faire en sorte qu'il y ait autant de changements dans ton écurie. Il faut forcément un petit peu de stabilité pour performer. Là, on a l'impression que ça part dans tous les sens. Alors qu'il y a peut-être une stratégie derrière, mais quand tu vois le budget qui est engagé, quand tu vois l'image que ça doit être la F1 pour la marque Renault, tu as l'impression qu'ils font n'importe quoi là.
Moi, je suis pas sûr justement qu'il y ait une réelle stratégie derrière à long terme. J'ai l'impression qu'on navigue à vue et que on met des coups de barre tous les 18 mois où on change la moitié du board. Je pense qu'autour de la table ici, on suit quand même d'assez près l'actualité d'Alpine. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous un peu perdus. Tout le monde change tous les 6 mois. Et comment veux-tu construire et comme l'a dit Alex, sur une écurie constructeur, tu dois avoir une vue globale. Tu dois savoir quasiment ce qui se passe dans 5-6 ans. Et là, on sait encore que jusqu'en 2026, on va juste colmater les brèches. Et pour la nouvelle réglementation en 2026, on va avoir Bruno Famin ou peut-être un nouveau visage déjà qui va venir nous expliquer que cette fois, c'est la bonne. Cette fois, Alpine a fait ce qu'il fallait. Cette fois, Estone et Viry-Châtillon partagent la même envie de réussir. Parce que cette guéguerre dont tu as parlé, Romain, elle est quand même au cœur de l'écurie depuis toujours, même les années Lotus ou autres. Donc voilà, et moi sinon, je vois aussi derrière ça presque un symptôme classique à la française, c'est-à-dire que c'est tellement Renault, c'est de toujours s'annoncer comme le Ferrari français, comme on va être dans le coup, comme on va revenir comme aux années Alonso, et depuis 2016, qu'est-ce qu'il y a à part une bunch of wankers, comme disait Gunther, quoi. On passe un peu pour des clowns souvent.
Tu veux dire qu'en fait, il y a beaucoup de com derrière toutes les prises de parole d'Alpine, mais sportivement, en fait, il n'y a pas de concret. Quoi.
Sportivement, tu as quoi ? Tu as Budapest ?
T'as des podiums par-ci par-là.
T'as des podiums
l'an dernier
par-là.
Qui fait un podium. Il y a Esteban Ocon aussi qui fait un podium à Monaco.
Exactement. Oui, mais voilà, qui est venu de nulle part presque. Oui. Et on n'a rien vu de la saison derrière. Enfin, en fait, je pense que tu mets le meilleur stratégiste, les meilleurs analystes aujourd'hui sur le projet Alpine. Même eux ne comprennent rien. Enfin, ouais. C'est mon sentiment, quoi.
Moi, j'ai du mal à voir, Romain, où est-ce qu'il... En fait, où est-ce que ça s'est complètement dégradé cette année ? Alors, ok, ils se sont trompés avec la 524, mais tu peux te tromper dans le développement d'une voiture, tu peux te tromper en tant que motoriste, mais à ce point-là, quand même, à ce point-là.
En fait, je pense pas que ça date de cette année. Je pense que ça date depuis que Alpine est revenu. Faut rappeler aussi que quand même Renault, avant que ça soit Alpine, Cyril Abitbol était en tête de l'écurie. Il avait deux fois moins de moyens que Alpine à l'heure actuelle, et pourtant les résultats étaient là et on sentait qu'il y avait une courbe de progression.
C'est un problème de compétence alors.
Je pense, parce que pour avoir des résultats comme ça, alors certes, il y a eu la victoire d'Ocon en Hongrie, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une erreur de stratégie de Mercedes sur ce circuit. Et que depuis, oui, il y a des podiums.
Oui, mais alors moi, je veux bien qu'on me dise, OK, la victoire d'Ocon, il va la chercher parce qu'il y a un concours de circonstances, mais tu es quand même là pour gagner, tu vois. Ça veut dire que tu as quand même la voiture qui te permet de saisir cette opportunité-là.
Et le pilote.
Là, même si là, il y a une opportunité de dingue sur un circuit, là, tu sais que tu gagneras pas. Donc, tu vois ce que je veux dire. C'est que, OK, d'accord, ils ont peut-être fait des podiums, gagné un grand prix parce qu'ils ont su saisir la bonne opportunité au bon moment, mais tu étais quand même équipé pour le faire.
Oui, bien sûr, mais après, je pense que c'est aussi une question de mentalité. Quand tu vois McLaren l'année dernière, qui est en galère au début de la saison, tout comme Alpine cette année, et qui le savait dès le début d'année que ça allait être très compliqué, et qu'au final, ils ont complètement changé de système sur leur monoplace, et qu'à la moitié de la saison, et voire jusqu'à la fin de la saison, ils ont réussi à redresser la barre et parvenir à faire des pôles et réussir des bonnes performances. Alpine, il n'y a pas du tout cette même mentalité. On a l'impression qu'ils ne vont jamais y arriver, qu'il y a cette mentalité un peu à la française où on baisse les bras et qu'on sent que ça va être trop compliqué, qu'on sait qu'on est un peu...
Je vous trouve dur avec ça.
En fait, au-delà même de cette mentalité, il y a peut-être plusieurs aspects. Il faut aussi rappeler que Alpine, c'est le groupe Renault, et un groupe automobile, c'est un aspect extrêmement politisé. Et donc, on ne peut pas prendre des décisions comme ça, d'une certaine manière, comme on peut le voir du côté de chez Aston Martin, du côté de chez Mercedes, par exemple, puisqu'on rappelle que du côté de chez Mercedes, l'écurie en tant que telle, ce n'est pas 100% Daimler, ça n'appartient pas au groupe Mercedes en tant que telle, dans la majorité. C'est divisé entre Ineos, si je ne me trompe pas, à 33%, avec Toto Wolff, et également aussi, bien sûr, avec le groupe Daimler. Et de ce fait-là, par exemple, on a une vision sur l'avenir qui nous permet de prendre du côté des décisions du côté de chez Mercedes beaucoup plus rapidement. Quand on voit aujourd'hui le groupe Renault, quand on voit aujourd'hui Alpine, chaque décision prend beaucoup, beaucoup de temps. Pour vous donner un exemple, ne serait-ce que des décisions simples, commerciales et marketing, doivent passer par un nombre de paliers de décisions pour juste prendre, ne serait-ce que commander par exemple, on va dire un ordinateur. Imaginez juste ça. Imaginez sur une voiture de Formule 1 dans la globalité. Ça, tout prend un maximum de temps du côté de chez Alpine. Ça a été notamment une vision que voulait remettre Laurent Rossi voulait changer Laurent Rossi quand on était du côté de chez Alpine.
Mais ça veut dire, Alex, que tu ne pourras jamais performer.
Il faut changer aussi les mentalités. C'est une question de mentalité aujourd'hui.
Ouais, mais là, c'est même pas que les mentalités. Il faut que tu changes
des
process.
Il faut que tu
changes de compétences. Il faut que tu changes ta manière de faire. Il faut que tu changes ta structure. Enfin, il faut que tu changes tout.
Mais ils ont eu des problèmes. Laurent Rossi. Vraiment, c'est ça. C'est que Laurent Rossi. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut par rapport à Laurent Rossi, qui était, on va dire, assez énarque. On va dire ça ainsi en termes de politique. On va dire ça ainsi par rapport à Laurent Rossi. Mais Laurent Rossi, lui, quand il est arrivé, il voulait dire OK, je voulais être la tête de gondole. Je veux être à la tête du projet Alpine, je veux gérer cette écurie-là et je veux gérer cette marque-là. L'histoire derrière, ce qui s'en est passé, c'est qu'il a voulu couper des têtes beaucoup trop importantes de l'écurie. Il y en a beaucoup en interne qui n'ont pas apprécié ça. On se souvient d'Alain Prost aussi qui est parti. Marcin Budkowski aussi qui est parti fin 2020 ou début 2021. Il y a eu le départ aussi de d'autres personnes. On a eu Otmar Szafnauer aussi qui est ensuite parti après le départ de Laurent Rossi parce que Otmar Szafnauer était très proche forcément de Laurent Rossi. Il fallait de nouveau changer une ère. Et en fait, Laurent Rossi n'a pas été un mauvais PDG en soi de la marque Alpine puisque Alpine a vendu beaucoup plus de voitures. Jamais dans son histoire, Alpine a vendu autant de voitures. Sauf que le problème, c'est qu'il a pris beaucoup trop de parts importantes dans cette écurie-là quand il disait justement oui, Otmar Szafnauer, c'est lui le maître à jouer, c'est lui le leader de cette écurie, c'est lui qui dirige l'écurie. Finalement, on voyait que Laurent Rossi. Et de cette problématique-là, il y avait aussi une finalité dans l'histoire. On ne savait pas qui était réellement le leader d'Alpine, à qui on donnait les clés, à qui on devait faire confiance, qui on devait écouter. Laurent Rossi disait quelque chose et derrière, tu avais Otmar Szafnauer qui disait d'autres choses. Pareil aussi sur d'autres situations. Quand on voyait qu'il y avait des conflits en interne, tu en parlais justement du conflit qui pouvait y avoir entre Viré Châtillon et Enstone, bien de rappeler que c'est la Grande-Bretagne face à la France. De ce fait-là, il y a un problème identitaire. Et on est arrivé même à une situation où Luca De Meo et Alpine dans la globalité se sont dit « Bon, allez, pour arbibocher tout le monde, on va faire un stage au GIGN. » Quand on arrive à cette situation...
Attends, Luca De Meo, Alex, juste pour préciser aux gens qui nous écoutent, enfin, c'est le
patron
Renault, PDG, directeur général, je ne sais pas quel rôle il a exactement, mais c'est le big boss.
C'est le big boss de Renault. Mais voilà, c'est que c'est un problème identitaire, c'est un problème de vision, c'est un problème de process, c'est un problème de tellement de choses, effectivement, en interne du côté de chez Alpine. Et ceux qui en pâtissent fortement de cette situation, ce sont deux joyaux réellement qu'on a aujourd'hui dans le sport automobile français, que sont Esteban Ocon et Pierre Gasly. Et aujourd'hui, dans cette situation, et on va forcément y revenir, ces pilotes-là...
Un un bourbier.
Qui ont le cœur d'Alpine, qui ont dans leur cœur Alpine, qui ont un cœur bleu, blanc, rouge forcément, bah, ça peut être d'une certaine manière un crève-cœur pour eux de devoir être dans l'obligation de quitter Alpine pour justement trouver les sommets.
Non, et puis en plus de ça, on a l'impression que les pilotes n'ont plus du tout confiance en Alpine. Mais c'est pas forcément que Ocon et Gasly, parce qu'ils ont vu la performance de la voiture et on sent qu'ils sont à bout de nerfs à chaque conférence ou zone mixte qu'ils font après Grand Prix ou avant Grand Prix. Mais il faut pas oublier qu'Oscar Piastri, il n'est pas parti pour rien. Il est parti à McLaren, il savait ce qu'il faisait, il savait que le projet était plus fiable à McLaren qu'à Alpine.
Même si dans la communication officielle aujourd'hui, les pilotes, je les trouve quand même hyper positifs.
Ils sont corpo de dingue. Non mais moi, franchement, je respecte à fond.
Ouais,
c'est
ça, parce que, ok, ils n'ont pas le choix, mais on en a connu d'autres dans des passés récents qui ont fait fi de ça et qui parlaient très mal, ou même plus lointain. Alain Prost, tu parlais d'Alain Prost tout à l'heure à l'époque de Ferrari. Il y a eu des pilotes qui n'ont pas eu peur de dire qu'ils étaient dans un tracteur ou autre. Donc moi, je trouvais aussi que pour le moment, ce qu'on aperçoit dans la nouvelle stratégie de communication d'Alpine avec Bruno Famin, c'est justement cet hyper-positivisme qui est presque parfois presque gênant tellement on est à la rue, quoi.
Mais parce qu'ils sont obligés.
Évidemment, t'es obligé.
Je comprends pas pourquoi t'es obligé.
Les gars,
c'est quelque chose que je comprends pas. Attends, juste Romain, je termine. Mais je comprends pas pourquoi dans le sport globalement et dans ce milieu-là, mais tu as le droit de dire que tu t'es trompé. T'as le droit de dire que t'es pas bon. T'as le droit de dire qu'il faut tout changer. Et en plus de ça, je vais te dire un truc. Ça va renforcer un petit peu ta crédibilité parce que là, quand tu entends Bruno Famin après le Grand Prix du Japon encore. Je sais pas vous, je sais pas ce que vous avez pensé de sa prise de parole, mais il y a rien dedans. Alors que tes pilotes disent, ouais, on a encore perdu du temps en course. T'as l'impression qu'ils ont régressé, les gars. Ils te disent ça, les pilotes, et derrière t'as le team principal qui parle. Et non, tout va bien. Mais tu passes pour un couillon peu quand même.
Je sens pas qu'il dit que tout va bien non plus.
Non, je te dis pas ça. Il met de la rondeur au bout d'un moment.
Il y a
peut-être plus de rondeur à mettre au bout d'un moment. Tu vois, il y a peut-être juste être un peu lucide et
en fait,
voilà.
C'est dire une fois que tu dis que ok, on est nul. Qu'est-ce qu'on fait après? Tu vois, en fait, c'est juste l'aspect de dire ça. C'est une fois que si Bruno Famin dit demain, allez, après le Grand Prix de qui est le prochain, c'est la Chine. Si après le Grand Prix de Chine, Alpine fait toujours une mauvaise performance, ce qui sera certainement le cas malheureusement, est-ce que si il dit bon, on est mauvais, on est nul, on va changer les choses. Alpine sait de toute façon que s'il dit ça ou non, on sait tous et on comprend tous, et même en interne du côté de chez Alpine, que bah la situation est pas normale et anormale et dramatique sportivement.
Mais ils le savent déjà quand même.
Et ils le savent déjà et ils travaillent pour changer les choses.
Ouais mais Alex, juste le fait de le dire, en fait pour les gens qui te regardent, pour les gens qui te supportent, peut-être même pour tes pilotes, ça te donne et puis même pour d'autres pilotes, parce que tu sais que Ocon et Gasly ils vont quand même essayer de sortir de là, de ce bourbier là, comme disait Louis tout à l'heure. Donc je sais pas, moi je me mets à la place des autres pilotes, ils peuvent venir, bon ok les mecs, ils sont trompés dans le développement de la voiture, la monoplace elle avance pas, ok, ils en sont conscients, mais ils essayent d'avancer, tu vois. Là moi je suis pilote. Je me dis, attends, les gars, ils sont pas lucides. Ils sont dans l'hyper-positivité alors qu'il n'y a rien qui se passe. Moi, je vais pas là-bas. Moi, j'ai envie d'aller avec des mecs qui ont envie de changer les choses, tu vois.
Ouais, mais Nico, elle est là la différence, en fait. C'est que tu as un patron d'écurie qui laisse le bon message parce que derrière, en fait, ils savent qu'ils ont fait n'importe quoi au niveau de la voiture. Mais derrière, au niveau des usines, ils sont déjà la tête sous terre, en fait. Ils en peuvent plus. Et tu ne peux pas mettre un message négatif, à part dire « oui, on a été nul au début de la saison », mais tu ne peux pas mettre un message négatif en plus. Il est obligé d'être dans le positivisme. Là, si tu mets dans le négatif, imaginons, tu construis une voiture qui est pourrie comme McLaren en début de saison l'année dernière. Le message au début, c'était « oui, ils sont nuls, on est nuls, on n'a pas réussi notre voiture ». Mais derrière, ils ont continué parce que aussi dans les usines, en fait, ils savaient qu'ils avaient fait une mauvaise voiture, mais qu'ils pouvaient la rattraper. Et là, le problème, c'est que dans les usines d'Alpine, c'est le bordel. Tout le monde se met la faute sur tout le monde. Donc derrière, il est obligé d'avoir un message positif.
Voilà, exactement. Pourquoi être positif?
Puisque c'est le bazar partout, rien ne va, pourquoi faire la comédie du bonheur, quoi. Moi, je trouve que c'est un peu exagéré. Je comprends l'idée d'être positif. On va pas se tailler les veines. Ça reste de la Formule 1, enfin, ce que vous voulez. Mais de là à être Parfois, c'était presque dithyrambique. Tu fais attends, pour revenir à Budapest. À Budapest, on a Sébastien Vettel derrière dans l'Aston, qu'on tient à 1,5 seconde sur tout le Grand Prix. Là, en un an et demi, Aston, ils font des podiums et nous on est.
Ouais, mais après, faut pas oublier aussi le sponsoring.
Tout n'est pas comparable, mais tu vois bien quand même qu'il y a une trajectoire sur plusieurs années où rien ne va, quoi.
Mais après, faut pas oublier le sponsoring. Imagine, tu laisses un message toute la saison où tu dis,
bien sûr,
on a fait n'importe quoi. Derrière, t'as plus de sponsor.
Mais non, mais tu t'es pas obligé de le répéter toute la saison, mais juste l'entendre une fois, en fait.
Ouais, mais le problème, c'est que ça risque de durer toute la saison.
Tu l'as dit, Romain. Regarde McLaren, ils l'ont fait l'année dernière. À Zach Brown, on n'est pas bon.
Oui, mais derrière aux usines, ça allait beaucoup mieux. Ils savaient qu'ils avaient fait n'importe quoi, mais derrière, la mentalité, elle était complètement différente que dans les usines d'Alpine. Aux usines d'Alpine, ils savent qu'ils ont fait n'importe quoi, mais ils se balancent l'erreur, les fautes sur une des deux usines à chaque fois.
Il y a un moment aussi où c'est là que des gens doivent intervenir, les gens qui gèrent l'équipe, ils doivent aller à Enstone, ils doivent aller à Viry-Châtillon. Moi, je sais pas, j'ai pas de précision, je sais pas si vous en avez, j'ai pas d'infos sur ce qui se passe dans les usines précisément, mais il y a un moment quand même, tous ces salariés, les mecs de ces deux usines-là, ils sont conscients qu'il faut tirer dans le même sens pour sauver l'écurie, parce que sinon, ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que tu n'auras plus d'écurie, donc ils n'auront plus de taf.
Je donnais un exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'en fin d'année dernière, il y avait Luca Di Meo, donc PDG du groupe Renault, qui était carrément venu à Enstone, en visio effectivement aussi avec l'usine de Viry-Châtillon, qui est l'usine moteur de Renault, pour justement, après l'éviction forcément de Laurent Rossi, alors pas éviction, puisqu'il a été replacé dans d'autres projets du côté du groupe Renault, plus certainement au placard. Mais voilà, il est
mais un beau placard, c'est possible, un joli placard.
Et il était venu faire un discours pour remettre, on va dire, de la motivation au niveau des troupes, parce qu'on était passé par des situations compliquées forcément internes du côté de chez Alpine. Il y a eu par la suite, je crois, après ce discours-là de Luca Di Meo, un podium de Pierre Gasly, c'était aux Pays-Bas, bien sûr. Mais il y a eu ce discours-là, qui expliquait justement, première phrase je crois de Luca Di Meo, ce discours-là, vous allez vous en souvenir toute votre vie. Il y a une vision de se remettre dans le droit chemin et surtout de faire profil bas du côté de chez Alpine. Profil bas. On va pas regarder les autres, on va se concentrer sur nous-mêmes. Il y a aussi l'aspect où ça va prendre du temps. Je pense que comme l'a très bien dit Romain, la 524, les problèmes de la 524, ils sont antécédents à bien plus de situations par le passé. Ça vient pas, c'est pas arrivé en une saison cette situation. C'est arrivé par des conséquences de mauvais choix continuels. Alors je dis pas que ce sont des choix qui ont été mauvais à l'instant T, mais c'est des choix qui ont résulté par au fait qu'ils ont été mauvais sur la durée.
Ouais, sur le moyen terme.
Sur le moyen terme, mais en fait forcément sur le long terme, puisqu'on arrive dans cette situation de la 524. Pour rappel, c'est que cette réglementation de 2024, on arrive en 2026 avec une nouvelle réglementation, et donc pour le châssis, aucune écurie va se dire « on va changer tout changer pour 2025, et toutes les ressources qui vont arriver pour 2026, on va en avoir moins pour préparer la nouvelle réglementation ». Non, c'est le châssis 2024 va rester sur 2025 aussi également. Donc Alpine est dans cette situation sur les deux prochaines années, réellement. Et donc en fait, on arrive sur le long terme à une situation dramatique, encore une fois, sportivement parlant, parce que des choix ont été faits à plusieurs moments, à plusieurs reprises, et surtout qu'on n'a pas voulu garder de la stabilité.
C'est quoi pour toi, Louis, la plus grosse erreur d'Alpine un peu là dans son projet? Et après, on partira un peu sur la position des pilotes. On en a parlé tout à l'heure. Moi, je les trouve incroyables de sérénité, enfin en tout cas de corporatisme. Mais pour toi, Louis, c'est quoi
Je ne sais pas exactement à quel moment l'erreur principale, mais pour moi, c'est le fait de sempiternellement changer. Tu peux pas changer tous les 18 mois. Donc le passage, Laurent Rossi, Alex dit, il a fait du bon travail. Je n'en sais rien. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il a pas eu le temps de le faire suffisamment. Enfin, tu vois. Donc ce que je te disais tout à l'heure, Bruno Femin maintenant, on va encore changer. Tant qu'ils stabiliseront pas là-dessus, ça n'ira pas. Et ce que disait aussi Alex tout à l'heure, c'est que c'est un constructeur et que du coup, tu as tout un groupe automobile en bourse derrière et que Luca Di Meo, il peut pas attendre en fait. Quand d'autres peuvent potentiellement patienter, regarde Jean Haas. C'est pas la folie, c'est quand même son nom qui est sur la voiture. Mais si tu veux, l'inertie, elle est beaucoup plus petite. Donc je pense que ou peut-être il faudrait être plus indépendant du groupe. Garder le cap, prendre la Bruno Femin maintenant, l'ère Bruno Femin, faut qu'elle dure 6 ans minimum.
Faut lui laisser du temps.
C'est un petit peu ça, c'est que la stabilité de Laurent Rossi, je sais que Laurent Rossi, c'est quelqu'un qui était très partagé en termes d'opinion publique, on va dire ça ainsi par rapport au sport auto. C'était quelqu'un que beaucoup trouvaient arrogant, que beaucoup dans l'arrogance par rapport à ses choix, par rapport à ses prises de décision, même par rapport à ses sorties médiatiques. Souvenez-vous qu'à Miami, il a quand même dit en 2023, je crois que c'est ça, que l'écurie faisait preuve de dilettantisme. Donc, quand tu sors ça, et en plus, il faut savoir que Ainsto.
Moi, je trouve ça bien.
Moi, j'étais le premier à dire.
Non, mais moi, je trouve ça bien d'avoir un gars qui ose dire les choses. On est dans le sport de, on est dans le sport de très haut niveau. Tu manages une équipe comme ça, t'as le droit de dire quand tu considères que tes pilotes, tes mécanos, tes ingénieurs, les mecs qui développent ta voiture, tu considères que là, dans la perf, ils sont pas au rendez-vous. T'as le droit de le dire.
J'étais le premier à être à dire, ça a été problématique quand Toto Wolff voit Mercedes dans une situation compliquée. Il dit que Mercedes, c'est pas bonne.
Quand
du côté de chez Ferrari, bon à l'époque c'était feu Mattia Binotto, on va dire ça ainsi. Mattia Binotto disait oui bon on n'a pas été bon, bah oui Ferrari n'a pas été bonne.
Bon alors après Mattia Binotto il le disait souvent.
C'est juste du principe que bah oui quand ça va pas il faut le dire et Laurent Rossi disait ça et au parallèle du discours de Luca De Meo dans les locaux de Enstone et également aussi de Verrichatillon, il a insisté sur l'arrogance affichée vers l'extérieur. Donc, on a une vision en fait différente. On n'aimait pas l'arrogance d'une certaine manière de Laurent Rossi, mais en même temps, Laurent Rossi, il essayait d'insister, et pour parler de sources sûres, le mec ne donnait pas beaucoup. Hein. Il donnait toute sa carrière, on va dire toute sa vie, d'une certaine manière, en tant que tel, 24 heures sur 24 presque, à Alpine, au groupe Renault, et à la vision justement. Le problème, c'est que je pense que ce qui a fait forcément erreur à Laurent Rossi, c'est qu'il avait plusieurs jobs en même temps. C'est impossible aujourd'hui de diriger une écurie de Formule 1 et en même temps de diriger une marque également forcément très importante comme Alpine, qui est aujourd'hui dans la restructuration du groupe Renault, effectivement par rapport à tout ça. Alpine est réellement la marque sportive aujourd'hui uniquement de Renault et non plus seulement Renault Sport. Et de ce fait-là, on arrive à des divergences de choix, des divergences d'opinion. Le Roland Rossi était peut-être pas assez bien placé, on va dire ça ainsi, ou dans le bon poste, on va dire ça ainsi, pour Alpine ou même pour l'écurie Alpine en tant que telle. Et forcément, il y a eu encore cette restructuration. Mais je reste persuadé, à mon humble avis, encore une fois, que par rapport à tout ce qu'on a pu entendre et tout ce que j'ai pu entendre aussi en interne du côté de Chanson et de Verrichatillon, que Laurent Rossi n'était pas le si mauvais élément qu'on veut peut-être nous laisser le prétendre, qu'on veut nous laisser l'entendre d'une certaine manière. Au-delà même de Cyril Abitbol, qui aussi avant était un excellent élément et que pour moi c'était celui qui a permis réellement aujourd'hui d'avoir une Alpine dans le départ qu'il y a pu avoir en 2021, parce que c'est encore une fois des mauvaises communications. Je reprends juste encore une fois, je reviens juste à 2016. Souvenez-vous quand Renault arrive en Formule 1.
Ouais, quand ils reviennent.
Ils disent oui, on va jouer le titre en 2018-2019, on gagne des courses. C'est pas Cyril Abitbol qui dit ça. Hein. C'est pas le patron d'écurie qui dit ça. C'est le patron du groupe Renault de l'époque, Carlos Ghosn.
Oui.
Donc déjà de ce fait-là, dès 2016, tu rentres dans une mauvaise communication par rapport à des mastodontes comme Ferrari qui était déjà présent, Mercedes qui était déjà bien, qui avait été
bien installé
par l'hybride forcément en Formule 1. Et de ce fait-là, tu dis oui, on va arriver, on va gagner le titre. Mais on n'était plus en Formule 1 en tant que châssis. Comment on fait? Et donc, il y a plein de choses comme ça sur les mauvaises communications qu'il faut qu'on en ait dans cette situation aujourd'hui.
Romain, revenons un peu sur les positions là, d'Ocon et Gasly. On le disait, ultra corpo pour le moment. Est-ce qu'ils peuvent vriller là un peu cette saison face à autant de manque de perf? Est-ce qu'à un moment ils vont sortir un peu de leur posture? Alors on sait qu'ils vont tout faire pour essayer de retrouver un baquet ailleurs. Franchement, je pense que c'est pas une surprise de le dire et c'est pas indécent de le dire. Hein. Mais est-ce qu'à un moment ils peuvent aussi eux lâcher l'écurie? Parce que si eux là qui sont ultra corpo commencent à mettre le feu à tout ça, là on se dit qu'il y a plus d'espoir.
Bah en fait, je pense qu'ils peuvent péter un câble tous les deux au fur et à mesure de la saison s'ils voient qu'en fait ça n'évolue pas. S'ils voient que ça évolue, parce que là, comme l'a dit Ocon sur le dernier Grand Prix, il a dit que sur la qualif, ils ont fait un bond en avant, un pas en avant, et sur la course, ils ont fait un pas en arrière. Et en plus de ça, tu sens que Ocon il tacle un petit peu Gasly sur sa performance du week-end. Donc pour le moment, ça reste calme, et ils ont le bon discours. Mais à voir à l'avenir et au fur et à mesure de la saison, si l'Alpine s'améliore, je ne pense pas qu'ils peuvent péter un câble, mais dans tous les cas, ils vont chercher un autre baquet ailleurs. Mais pendant ce temps-là, il faut patienter et voir si le discours il va changer. Mais pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'il change.
Est-ce qu'il y a de l'espoir, Louis, pour Alpine cette saison?
Alors, saison.
Cette saison, je te dis pas qu'ils vont disputer. Non, mais pas le top 10. Mais est-ce qu'ils peuvent redresser un peu, tu vois, la pente quand même?
Comme on en parlait tout à l'heure avec McLaren, je pense que c'est typiquement ce qui ne se passera pas avec Alpine. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une remontada cette année, quelque chose de drastique comme ça. Ça va peut-être être quelque chose qu'on ne verra pas nous. mais qui sera en interne, tu vois. Ça serait peut-être la bonne saison pour remettre tout d'équerre à l'intérieur, pour que justement, moi je pense qu'il faut faire un all-in 2026 aujourd'hui. Enfin, t'es dernier, tu vas faire quoi? Au mieux 8e l'année prochaine. Ce qu'a dit Alex tout à l'heure, on garde le châssis, on mange notre pain noir, je crois, ou blanc, je ne sais plus. Mais voilà quoi. Et les pilotes, bah, les pilotes, c'est bon, leur chance à eux, si tu veux, pour pas trop mal dormir le soir. C'est que leur contrat se termine bientôt. Je crois que Pierre et Esteban, c'est cette année que ça se termine, avec une année en option pour Pierre. Romain, tu l'as dit, ils vont chez... enfin, moi, à leur place, j'aurais la tête, je passerais mon impresario, il ne dormirait plus. Quoi. Enfin, il faudrait me trouver un baquet, parce que c'est très compliqué. Pierre, il arrive d'une écurie satellite qui était donc AlphaTauri et Racing Bull cette année. Il y a passé un temps record. Normalement, c'est une écurie de jeunes dans laquelle tu fais un bond pour aller plus haut. Il y est retourné, il a une histoire un peu particulière, mais il y est retourné, mais derrière il y passe des années, il sort de là, enfin il arrive chez un constructeur plein d'espoir et un storytelling incroyable avec les Frenchies ensemble dans Oui Oui Baguette, tout ça. Et là aujourd'hui Yuki Tsunoda lui met enfin Yuki il est devant quoi, donc je me mets à la place de Pierre Gasly. Et je me, ouais, dis, je me dis, il en a vécu d'autres dans sa carrière, parce que le pauvre, quand même, que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan pro, il en a vécu quelques-unes compliquées, il se relève toujours. Mais c'est dur parce qu'ils prennent de l'âge, parce qu'un peu à la manière de Ricardo, il y a quelques années, ils ont, bah, comme tous, le rêve d'être champion du monde. Et ils voient au gré de l'évolution de leur carrière et des baquets disponibles que... Bah, ça sera peut-être jamais, ça sera peut-être jamais. C'est ça la réalité aujourd'hui. Les gars, c'est des cracks, c'est deux Normands qui sortent des temps autour depuis tout petit incroyable et bah, ça va rien faire. Mais bon, ça, ce ne seront pas les premiers. Regarde Charles aujourd'hui, on ne sait pas si Charles Leclerc, s'il aura un jour le Graal, alors que bah, tout le monde dit de manière unanime que c'est un crack. Quoi. Donc c'est terrible, c'est les 20 meilleurs du monde et il n'y a qu'une place, on le sait. Mais ouais, Pierre peut-être encore plus qu'Esteban, parce qu'Esteban, je ne sais pas, tu me diras Alex, mais... j'ai l'impression ou la sensation qu'avec son background Mercedes ou quoi, qu'il est peut-être, il a peut-être plus d'avance, il a peut-être mis plus de pions pour partir.
Oh oui, ouais. Oui. Bah, il a peut-être plus d'avance pour partir. Ne pas oublier qu'en fin d'année dernière, Esteban Ocon et Audi avaient un intérêt mutuel. L'intérêt mutuel, forcément, par le fait qu'au début, tout le monde pensait que Carlos Sainz allait prolonger du côté de chez Ferrari. Et puis l'opportunité à Hamilton, on l'a vu, est arrivée pour Ferrari. Et derrière, Ferrari a fait le choix logique, naturel de prendre Lewis Hamilton, non bien, encore bien, il est bien de le dire, que Carlos Sainz n'est pas un mauvais pilote, très loin de là, c'est juste que quand tu as une opportunité Hamilton, tu le prends. Et aujourd'hui, bah, Carlos Sainz est de nouveau bah, disponible, et il y avait déjà cet intérêt d'Audi par rapport justement à Carlos Sainz. Mais semblerait-il que maintenant, la nouvelle qui est tombée au moment où on se parle, le 12 avril, c'est que Carlos Sainz aurait signé du côté de chez Mercedes pour, selon la presse italienne et selon d'autres sources aussi également. Bon, on va attendre de voir si ça se réalise. Et donc aujourd'hui, Esteban Ocon, par cet intérêt mutuel qu'il y avait à l'époque justement avec Audi, on est dans une situation où forcément, si on me demande, on va dire ça ainsi, qui a le plus une âme de leadership, on va dire ça ainsi, entre Esteban Ocon et Pierre Gasly, moi je mettrais plus Esteban Ocon dans le
ouais,
sens
c'est ce que tu nous disais, ouais.
Esteban Ocon a quand même porté Enstone et Vrichatillon sur ses épaules depuis qu'il est du côté de chez Renault, même quand il était coéquipier de Daniel Ricciardo qui a ensuite voulu partir derrière. Il est devenu leader naturel de Renault et ensuite d'Alpine derrière Esteban Ocon. Et aujourd'hui, même dans les situations difficiles, c'est lui qui a porté. C'est lui qui porte Alpine. Quand on voit les performances, quand on voit également aussi les messages à la radio, alors tu parlais de communication, monsieur Nico, par rapport à Bruno Fama et même par rapport à Laurent Rossi, mais Esteban Ocon, c'est les manières de parler, les manières d'agir comme il faut. Quand à la radio, il dit « Bon, on sort en Q1, c'est pas de la faute des pilotes, encore une fois, c'est de la faute de la voiture. » Il y aura des bons moments, il y aura des choses qui avanceront, il y aura des moments pour rebondir et il y aura des opportunités à prendre. Bah, c'est une âme de leader à avoir. Ouais. Parfois, on peut entendre Pierre Gasly, peut-être que je me trompe, encore une fois, mais on peut entendre Pierre Gasly peut-être un petit peu être trop dans le désarroi, pas assez dans le team spirit, on va dire ça ainsi. Et Esteban Ocon l'aime, et naturellement, puisqu'il est depuis plus longtemps du côté d'Enstone et de Viry-Châtillon, et dans ce groupe forcément qui est du côté de chez Alpine. Et bah, ça joue beaucoup forcément. Le paddock Formule 1, c'est, j'ai envie de dire, la valeur qu'a Esteban Ocon. En France, Esteban Ocon, l'impression que dans le public français, il n'est pas aussi adoré forcément que Pierre Gasly. Peut-être que c'est une image, encore une fois, une vision, une image, bien sûr qu'on peut avoir.
C'est les 20 ans d'attente. Peut-être, il a eu ça.
Et en plus, il y a aussi...
La personnalité,
bien sûr. Et tout
derrière aussi. Ouais.
Et toute cette personnalité a forcément, j'ai envie de dire, défavorisé en termes d'image Esteban Ocon par rapport à Pierre Gasly. Alors que finalement, Esteban Ocon et Pierre Gasly... sur, en termes de niveau, ils peuvent être égaux, bien évidemment, mais en termes, j'ai envie de dire, de l'aspect de leadership et de piloter même un projet en lui-même, je pense qu'Esteban Ocon a plus à donner par rapport à Pierre Gasly. Ce qui ne veut pas dire que Pierre Gasly ne peut pas le faire, mais justement, c'est un avis hein, par rapport à ce qu'il peut plus donner. Et forcément, pour Esteban Ocon, il y a peut-être une meilleure opportunité ou il aura peut-être plus d'opportunités. En même temps, il n'y en aura pas 100 hein, pour Esteban Ocon ni pour Pierre Gasly. Hein. La seule opportunité pour partir d'Alpine, c'est bien évidemment du côté de chez Audi, si effectivement Carlos Sainz vient signer du côté de chez Mercedes.
On repart un peu sur notre débat sur Alpine, sur cette descente aux enfers, franchement, qui est assez frappante, impressionnante même, la vitesse à laquelle l'équipe s'est effondrée. Est-ce que, Louis, la vente de l'écurie, c'est une possibilité? Il y a eu un article qui est sorti cette semaine dans un média étranger, une rumeur. Le groupe a fait un communiqué de presse pour démentir en disant que c'était complètement faux, que l'écurie n'était pas à vendre. Mais c'est vrai qu'on se dit, on le disait, Luca de Meo, le big boss de Renault, a un groupe en bourse. J'imagine que le budget alloué à la Formule 1, bon, c'est quand même assez épais. Il y a peut-être un moment où il va se dire, si notre image est autant écornée cause de nos perfs en F1, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est une vraie possibilité pour toi, la vente de l'écurie?
C'est une vraie possibilité parce qu'on sait que le groupe Renault, dans l'histoire, dès que ça a été un peu trop compliqué sur la longueur ou qu'à la tête du groupe, on changeait de paradigme, on quittait la F1. Ça voudra pas dire, s'ils le vendent cette fois, qu'ils ne reviendront pas dans 10-15 ans, la racheter, ça ne sera pas la première fois. Mais pour moi c'est complètement plausible dans le sens où tu ne peux pas, avec la révolution automobile aujourd'hui, écorner ton image. Et là, inexorablement, elle va être écornée si ça continue. Pour moi, il faudrait pousser jusqu'en 2026. Tu vois. En 2026, tu sors une voiture où tu reviens dans le game. Là, ça change tout parce que tu as le droit aussi d'avoir une réglementation où tu te trouves. Mercedes est un peu nulle part depuis la nouvelle réglementation. Demain, moi, je passe devant le concessionnaire Mercedes, je m'arrête toujours, tu vois. Alpine a besoin...
Ah, mais c'est pas la même dégringolade,
Ouais, non, clairement, c'est pas la même dégringolade. Surtout qu'on partait de moins haut, donc c'est... Enfin, tu vois, il y en a pas eu les années où on arrivait, où on s'est gavé, où on s'est dit, bon, on peut patienter quelques années de disette et revenir. Donc, pour moi, c'est probable, c'est complètement probable, mais je lisais la condition selon laquelle il faudrait garder le moteur Renault. Mais qui va t'acheter ton écurie une fortune et à qui tu vas vendre dans le package? Tiens, je te donne le pire ou presque moteur de la grille. Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens.
C'est le moteur de la Clio, là.
Ouais, voilà, c'est ça. Attention, c'est l'édition Williams 99, ça pousse un peu. Non, mais voilà, tu vois, genre... Moi, je parle un peu en supporter aussi, tu vois, il y a de la déception, clairement, t'as envie que ce projet marche, et comme tous les six mois, on te dit que là, cette fois, ça y est. Et moi, en plus, je suis supporter du PSG, tu vois, donc je sais y croire chaque année,
t'es la personne idéale pour nous parler de ça.
Voilà, et y croire de nouveau, donc il n'y a pas de souci, mais ça fatigue.
Ouais. Romain, c'est toi aussi, c'est vraiment une énorme déception de les voir à ce niveau-là. En fait, moi, je ne me rends pas trop compte, parce que bon, je suis beaucoup la Formule 1, mais je suis peut-être moins passionné que vous, je ne me rends pas compte à quel point, en fait, c'est un fiasco. Ce projet Alpine pour l'instant, hein, au moment où on parle, bien sûr, Louis l'a dit, peut-être qu'en 2026 tu vas sortir une magnifique voiture et tout ça, et tu vas te remettre à titiller les plus grands, mais c'est vraiment une énorme déception.
Bah, en fait, c'est vraiment une énorme déception, mais justement j'aimerais revenir sur ça. Imaginons, tu veux attendre 2026. D'ici 2026, déjà tu fais quoi? Déjà tu restes avec ce tracteur parce que tu vas
construire
sur...
Bah oui, mais tu prépares,
tu construis quoi?
Je sais pas, mais ce que disait Louis, tu fais l'impasse en fait sur ces. T'essayes d'être structuré en interne, t'essayes justement de gérer ce qui se passe dans toutes les usines. Là, vous m'avez dit que les mecs sont prêts à se caillasser à travers la Manche. Là, ils se balancent des cailloux là, d'un côté de la Manche et de l'autre. Et puis, je sais pas, t'essayes de gérer tout ça, de laisser du temps à Bruno Famin, un peu tout ce qu'on s'est dit depuis le début du podcast, quoi. Essayer vraiment de construire une base solide, des fondations solides pour que cette équipe puisse vraiment se développer.
Non, mais j'entends que tu veux construire derrière une bonne équipe et tout le monde s'entend bien et on essaye de faire le mieux possible avec la voiture qu'on a. Mais si tu n'as pas les résultats, derrière, pour 2026, tu auras beau faire ce que tu veux essayer de mettre en place, t'auras pas les sponsors. Et si t'as pas les sponsors, derrière, tu peux avoir un projet pour 2026. Déjà qu'à mon avis, le projet, je suis pas sûr qu'il soit déjà bien en place pour 2026. Et si en plus de ça, t'as pas les sponsors pour faire quelque chose en 2026, bah tu peux toujours rêver pour essayer d'accrocher les Red Bull, les McLaren, les Mercedes, les Ferrari. Ça va être trop compliqué. Déjà, pour rattraper le milieu de tableau, déjà, ça va être compliqué. Et d'ici 2026, si même t'essayes de faire au mieux possible pour essayer de rattraper le moral un peu de tout le monde, de toute l'écurie, de mettre les bonnes personnes aux bonnes places, mais sauf qu'à côté de ça, déjà tu vas perdre à la fin de la saison sûrement au moins un de tes deux pilotes. Derrière, ça va être compliqué. Alors oui, tu vas peut-être amener un nouveau pilote, pourquoi pas un pourcher d'ailleurs qui pourrait faire sa première expérience en Formule 1, et ça sera peut-être la meilleure solution pour lui. Mais pour l'écurie, je suis pas sûr que...
Attends, tu parles de 2025 là ?
Ouais, 2025, mais en termes...
Vous m'avez même pas cité Théo Pourchaire dans le podcast sur la 6 saison. Ça, c'est
oui,
terrible, ça.
D'accord. Vraiment, ça. Mais...
Je suis en train de penser, là, comme ça.
On n'y a pas pensé, mais... Sauf que là, au vu de la grille, à mon avis, il n'y a pas un seul pilote qui veut se mettre dans un bac alpine.
Attends, Alex, juste, ouais. c'est super intéressant quand même ce que dit Romain. Et moi, je voulais rebondir sur ça. Est-ce que tu penses que les résultats actuels d'Alpine, ça hypothèque le projet 2026? Parce que si c'est ça, ça change
tout.
C'est-à-dire que les mecs, ils ont un besoin de perf rapide.
Mais sur plusieurs plans, forcément, c'est extrêmement important, cette situation, de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Parce que le fait de patienter jusqu'à 2026, ça peut te bousiller tout le projet Alpine et tout le projet de l'écurie. Et forcément, on en peut comprendre forcément les rumeurs d'une potentielle vente. Déjà, ne serait-ce que par rapport aux pilotes. Les pilotes sont les ambassadeurs de l'écurie et de la marque en tant que telle, vu que Alpine est un constructeur. Et donc, de ce fait-là, comment tu veux vendre ta marque si tu as des pilotes qui ne sont peut-être pas à la hauteur d'un constructeur automobile, marketingement parlant ou commercialement parlant ? Forcément, Romain l'a dit, Romain en a parlé, l'aspect du sponsoring, l'aspect de l'image est extrêmement important. Ne pas oublier que les écuries de Formule 1 et même les voitures de Formule 1, ce sont des immenses tableaux publicitaires. La Formule 1 est un sport, oui, mais c'est aussi et surtout une grande vitrine automobile pour les constructeurs, que ce soit en tant qu'écurie, mais également bien sûr en tant que motoriste. Et donc forcément, tu te dois d'avoir des pilotes très attrayants. Aujourd'hui, on a quand même deux pilotes extrêmement forts et extrêmement importantissimes aussi pour le sport auto français, qui veulent se barrer de la seule écurie française aujourd'hui. Esteban Ocon et Pierre Gasly. Enfin, qui semblent vouloir se barrer de ce que l'on comprend par rapport aux informations. Et c'est logique. Pourquoi ? Parce que le but premier d'un pilote aujourd'hui qui est en Formule 1, c'est d'aller chercher le bon projet au bon moment, avec la bonne voiture, pour se battre, pour remporter des courses, aller chercher des podiums, ou bien sûr, déjà, toucher le Graal ultime, à savoir le titre de champion du monde. Donc aujourd'hui, du côté de chez Alpine, c'est compliqué. Et la problématique, c'est que si tu te plantes, j'ai envie de dire, tu patientes de 2025 pour ensuite aller à 2026, comment tu peux aller donner des garanties de ce fait-là, donner des garanties à des pilotes qui peuvent être attrayants pour ton futur, si tu ne peux pas leur promettre d'avoir l'année prochaine ou même en 2026 des performances ou des développements qui permettent justement à Alpine de se retrouver dans la bonne direction. Et surtout un point qui est extrêmement important, on a parlé de McLaren, pourquoi ils ont rebondi ? McLaren, ils ont rebondi tout en permettant à Lando Norris d'avoir, juste qui est un pilote forcément extrêmement attrayant, l'un des meilleurs du plateau, de lui donner des garanties par rapport à l'avenir. Lando Norris, il a dit ok, je reste, je comprends, mais donnez-moi des garanties. Ils lui ont donné un plan pour qu'il reste, justement, et qui ne se barre pas du côté de chez Red Bull ou dans d'autres écuries, forcément. On se souvient que Red Bull essayait drastiquement d'aller chercher Lando Norris a préféré dire non tout de même à Red Bull, ne pas l'oublier, parce que du côté de chez McLaren, il y avait des garanties par rapport au futur. Et là, aujourd'hui, du côté de chez Alpine, est-ce qu'aujourd'hui Alpine peut donner des garanties, déjà premièrement à Esteban Ocon et à Pierre Gasly ? Compliqué. Pour donner des garanties, être compliqué dans les garanties pour Esteban Ocon et Pierre Gasly, j'imagine pas pour les autres pilotes qui vont devoir aussi se trouver d'autres baquets. On n'est pas à l'abri que l'année prochaine, tout le line-up du côté de chez Alpine change, et ça, ce serait malheureux, très clairement, pour la stabilité.
Non, et puis même, je reviens sur les sponsors, il faut aussi apporter un projet aux entreprises sponsors. Tu peux apporter un projet aux entreprises sponsors, mais tu vas mettre quel pilote ? Tu leur dis, tu mets quel pilote dans les baquets ? Ton projet, il tombe à l'eau, en fait, au moment déjà de l'annonce.
Avec tout le respect que j'ai pour Jack Doohan, c'est pas la meilleure vitrine au plus possible pour effectivement vendre
mais
le projet Alpine.
Voilà. Faut des noms. Celui-là, t'es sur ses côtes. Depuis qu'on a commencé ce podcast,
non, mais
t'es
non,
sur
non,
ses
non,
côtes,
non,
tu
non,
le lâches pas.
Non, c'est juste que je trouve qu'il y en a beaucoup qui font beaucoup avec Jack Doohan alors qu'il n'a pas montré de grandes choses, on va dire ça ainsi, en formule de promotion, ouais, comparé à d'autres pilotes comme justement hors projet, hors Giron Alpine, on va dire ça ainsi, comme potentiellement Théo Pourchaire ou encore d'autres pilotes bien sûr.
Même si Alpine veut des nouveaux pilotes, et imaginons qu'ils veulent des espoirs français, mis à part Théo Pourchaire, qui on pourrait voir à la place? Isaac Hadjar, il est déjà dans, entre guillemets, dans l'écurie Red Bull.
Mais il n'est pas dans une Formule 1.
Il n'est pas dans une Formule 1 et on a déjà vu des contrats un peu hybrides comme Ocon qui était encore Mercedes.
Qui l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui.
À ce moment-là, tu le vois plus chez AlphaTauri.
Tu le vois plus chez Racing Bull. Je te dis juste, si à la fin tout le monde est dans un baquet et qu'il reste celui-là et qu'on dit à Isaac, écoute, on te trouve un contrat, moi à la place d'Isaac, j'y vais.
Bien sûr, tu y vas.
Il faut être jeune.
Mais une année sabbatique.
C'est aussi un énorme aveu de faiblesse forcément vis-à-vis d'Alpine, que Alpine se retrouve dans une situation à être une écurie où les jeunes pilotes vont faire peut-être leur preuve. Comment est-ce possible qu'on en soit aussi arrivé là? On en a discuté, mais on arrive dans cette situation. Alpine va peut-être devenir une écurie où des jeunes pilotes arrivent pour faire leur preuve. Et si tu es constructeur, mais voilà, on va devenir un peu.
T'es pas censé être un centre de formation.
Exactement.
Comme tu l'as dit au début de ce podcast, t'es constructeur, tu dois être top 4 toujours.
Ah, et puis surtout que déjà, en termes d'écurie, ils sont déjà en mid du classement. Donc déjà, c'est pas la top écurie pour attirer les champions du monde.
Non, mais normalement, la saison prochaine, t'es censé matcher pour attirer par exemple un Carlos Sainz, tu vois? Ouais. Normalement, si t'es une écurie constructeur, le mec qui gagne chez Ferrari,
que t'as viré il y a 4 ans.
Voilà, non, mais ce que je veux dire. Non, mais je te dis ça parce que là, c'est le gars qui perd sur ce début de saison, mais t'es censé attirer les mecs qui perdent, tu vois, que ce soit Sainz, Perez et tout ça, on n'en entend même pas parler.
Souvenons-nous de ce qui s'est passé il y a 2 ans. Alpine avait le baquet le plus convoité presque du paddock, bien sûr, après le départ de Fernando Alonso et aussi le départ de Oscar Piastri. On avait eu, je crois, de mémoire, une situation où on avait Nick De Vries qui était également aussi prétendait au baquet, il y avait Pierre Gasly aussi qui prétendait au baquet, il y avait des pilotes aussi comme Antonio Giovinazzi aussi qui prétendait au baquet, et aujourd'hui ces mêmes pilotes là je pense qu'ils auraient aucune envie d'aller du côté de chez Alpine aujourd'hui, tellement la situation est catastrophique et compliquée au niveau de la performance et au niveau du projet dans la globalité.
Mais encore une fois tu donnes
tu veux pas me laisser relancer,
il me relance aussi c'est pour ça. Non, mais il donne ces noms là Giovinazzi tout ça, mais encore une fois ce n'est pas des grands noms de la F1.
Du sport auto aussi, pardon.
Alors, oui, attendez, du sport auto, d'accord.
Il y en a un qui est champion partout. Je parle de la F1.
C'est pas des grands noms comme Carlos Sainz, Charles Leclerc, Max Verstappen, Hamilton, Norris, et encore même on peut mettre Piastri, quoi.
Mais bon, finalement, la F1, ça reste quand même toujours le top du top, puisqu'on voit qu'un Hülkenberg qui faisait la fine bouche, quand on lui a reproposé Haas, qui est quand même pas top gris, il dit oui. Magnussen, pareil.
Tu vas les deux pieds.
Et surtout, Hülkenberg, le rebond par rapport à ça, au viré de chez Renault, on va dire ça ainsi,
oui,
pour aller où? Dans un projet constructeur aujourd'hui, il va certainement aller
chez Audi. Ouais.
Voilà.
C'est dingue. Les gars, petit prono, on termine ce podcast et après je vous donne quand même l'info du jour. Est-ce qu'on voit Alpine se relever un petit peu? Alors, bon, derrière se relever, vous l'interprétez un peu comme vous voulez, mais relever la tête d'ici la fin de saison, Louis?
D'ici la fin de saison, je pense que moi, le seul objectif que je vois, c'est aller attraper quelques points, mais vraiment quelques points. Je suis très, très, très pessimiste.
Romain.
Ils peuvent rattraper un petit peu le bas du mid-tableau, mais ça va être compliqué. Mais ils peuvent le faire, mais ça va être
Attends,
compliqué.
Attends, c'est quoi le bas du mid-tableau?
Aller passer au-dessus de Haas. Mis à part ça, voilà.
C'est beau,
quoi.
Ça, hein.
C'est le haut de la fin de tableau ou le bas du mid-tableau,
tu m'as remis un coup de fouet, mon Romain, là, je suis reparti.
Alex, prendre un Xanax.
Je suis plutôt. En fait, c'est l'aspect. On peut pas tellement toucher plus bas que là aujourd'hui, comme j'ai dit au début.
Ouais.
Et de ce fait-là, je pense qu'en tant que constructeur automobile, par rapport aux investissements, ça remontera pour aller potentiellement combattre pour les points, ou du moins s'approcher de la zone des points, 12e, d'ici l'été.
Ouais, tu sors en Q2 quand même sur la fin de saison et tout régulièrement.
Oui, c'est tellement triste.
Ça fait mal, non, mais c'est tellement compliqué. Et ça encore une fois, on faisait le parallèle par rapport à McLaren très rapidement. Mais McLaren, quand ils ont compris qu'ils étaient dans une situation compliquée, ils ont viré le directeur technique qui était James Kay pour derrière refonder réellement leur direction technique avec des personnes en place et aussi une vision par rapport à l'avenir et au projet. Et par rapport au projet d'avenir. Aujourd'hui, côté de chez Alpine, il y a des personnes qui sont arrivées, qui sont en train d'arriver, mais le projet n'est pas encore en place. Donc c'est pour ça que je ne suis pas aussi optimiste.
Info du jour, Louis Fernando Alonso, on en a beaucoup parlé, hein, on l'a annoncé chez Red Bull, enfin il y a énormément de rumeurs autour de Fernando Alonso, il prolonge chez Aston Martin.
Ah bon ? Parce que je croyais qu'il voulait arrêter la F1, ça fait un mois qu'il dit partout, mais non, mais en fait
je suis peut-être un peu cramé.
J'ai 72 ans, c'est peut-être fini pour moi. Ah, on te connaît Nando, on te connaît, évidemment qu'il allait prolonger, moi je croyais potentiellement qu'il pourrait peut-être partir ailleurs même, j'en sais rien, mais qu'il continue en F1, c'était sûr. Et donc moi je suis très content.
Il pilote à coup sûr pour les deux prochaines saisons. Après on connaît pas trop la teneur du contrat. Il y a peut-être des options derrière, on imagine.
Évidemment. Bon,
après je pense que Papa Stroll a encore une fois dû sortir le carnet de chèque un petit
peu.
Bah
ça, après,
pour être tout à fait honnête, je pense pas que ce soit uniquement le carnet de chèque. Je pense que le projet.
Je pense qu'il est bien là-bas, puis il se ressemble un peu. C'est des taureaux quoi. Ils rentrent dedans, ils foncent.
Puis d'un autre côté, on peut pas dire qu'il a beaucoup de concurrence quoi.
Ouais.
Non, mais par contre, cette prolongation de contrat de Fernando Alonso est une confirmation que ce projet d'Aston Martin est un projet qui peut ou qui va devenir gagnant. Forcément, ouais. Ne pas oublier qu'en 2026, Aston Martin sera une écurie constructeur aboutie en Formule 1, avec bien sûr la nouvelle usine qui sera encore plus aboutie, bien évidemment, et beaucoup mieux formée avec les employés qu'il y a du côté de chez là-bas, du côté de chez Aston Martin. Une nouvelle soufflerie qui arrive bientôt, dernier cri, et ça c'est extrêmement important, l'approche d'une nouvelle réglementation, et bien sûr, le partenariat exclusif avec le motoriste Honda, ce qui deviendra forcément un constructeur réellement, encore une fois, abouti en Formule 1. Et ne pas oublier donc que Fernando Alonso va donc retrouver Honda. Et ouais, ça fait extrêmement plaisir.
Engine.
Voilà. Ça, Alonso, là, quand il a officialisé ça, il a dit non, mais je suis en pleine bourre pour rebondir sur ce que tu disais, Louis.
Ouais,
alors
ouais,
qu'il y a deux mois, il était là. Ouais, franchement, j'ai mal au lombaire. Ouais, je suis un peu vieillot là. Ouais. Il m'a dit non, mais je suis en pleine bourre. C'est bon, les gars, je peux piloter jusqu'à 45 ans. Nickel.
Ouais, mais on le connaît. Moi, tu sais que quand j'étais jeune, je l'aimais pas. Hein. Quand il était chez Renault, j'étais mazo au point d'être tellement ferrariste que je n'aimais pas l'écurie française.
Je vais pas te mentir, moi aussi. J'étais comme toi, exactement.
On rappelle quand même qu'on a quand même un pilote qui est devenu double champion du monde.
Non mais attends,
sous Jacques Chirac, on est encore là. Hein.
Oui, par contre, je remettais pas du tout en cause son talent, mais j'avoue, j'aimais pas le gars. Merci beaucoup, les gars, pour ce nouvel épisode du Paddock RMC. Bien évidemment, si vous aimez ce genre de format avec Alex, avec Louis, tiens, venez commenter la première de Louis, nous dire s'il a été bon ou pas. Romain également, vous mettez les 5 petites étoiles sur toutes les plateformes de téléchargement, c'est super important pour continuer à faire rayonner ce podcast. Il est pas mal ce mot. On se retrouve lundi prochain, débrief du Grand Prix de Chine. Ça s'annonce pas mal également avec la première course sprint de la saison. Tiens d'ailleurs les gars en Chine.
5h du matin.
Ah oui, ça par contre c'est un
replay.
Peu tôt.
Un sprint.
Je suis pas sûr de regarder en direct. Ouais. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. À lundi. Bye bye.
Ciao.
Ciao.
Le paddock RMC.